podcast.com. Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. On est entouré d'une faune éclectique aujourd'hui, hein? Il y a Tommy, bien entendu, moi. Il y a Emmanuel qui est là aussi, salut Emmanuel.
Je suis là, fidèle au poste.
Ah oui, hein, pas à peu près. On a aussi Caro qui est là.
Allô, je suis une fille et je joue à Magic.
C'est vrai. Moins ces temps-ci, par contre.
Un peu quand même.
Un peu moins.
Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à Terrain Basique.
Ben oui, hein. Et on a Jean-Emmanuel aussi qui est avec nous. Hein.
Bonsoir.
Ben oui, bonsoir. Qu'est-ce qui est arrivé récemment, Emmanuel? Peut-être que tu peux nous présenter.
Écoute, on a un invité de marque aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir sur notre podcast un champion du monde de Magic. C'est tout récent, là. En plus, le titre, on va lui parler de ça, entre autres, sur le show aujourd'hui. Donc, Jean-Emmanuel Depra, un pro de Magic là, qui a fait rouler sa bosse depuis quelques années sur le Pro Tour. Là. On veut, pour vous donner une idée, là, pour nos auditeurs, si vous ne le connaissez pas trop, on peut faire un petit recap là, de ses faits d'armes, puis on pourra s'en parler plus en détail. Premier gros Grand Prix de Warsaw, première victoire en 2017. Par la suite, écoute, des top 8, une victoire en World Cup, là, ça c'est quelque chose qui se fait plus vraiment. Là. En fait, c'était la dernière fois qu'il y avait un championnat par équipe, là, par pays, okay. Avec l'équipe française qui avait gagné en 2018 le World Magic Cup. Ils ont fait « bon, ben c'est bon, la France en a gagné deux, on arrête, on n'en fait plus ». Je sais pas si ça va revenir, peut-être. Sinon, écoute, des top 8 Mythic Championship, beaucoup de finales. Terminé deuxième là, sur une séquence là, en 2019-2020, là, terminé deuxième sur comme trois tournois sur quatre, incluant les championnats du monde. Qui était en 2021. Et puis, c'est tout ça culminé avec une belle victoire aux championnats du monde à Vegas. C'était les championnats 29. On est-tu rendu là? 29, 30?
29, oui.
Ouais. Alors, félicitations. C'est une belle, wow. Une belle feuille de route. Puis, on est content de t'en parler.
Ça vient d'où cette passion-là pour Magic?
Ça fait 18 ans que je joue. J'ai commencé avec un pote quand j'avais 11 ans qui a amené des cartes en vacances et qui m'a appris à jouer vite fait avec des mecs un peu nuls.
T'en rappelles-tu la première carte qui t'a frappé à cette époque-là?
Je me souviens que c'était un deck Centaure que j'avais dans les mains, un Centaure Tribal.
Oh.
Et mon pote jouait des cartes beaucoup plus fortes, il jouait des Lightning Bolt et des sept rhizochroniques, donc c'était pas facile.
Classique façon de t'introduire à Magic. Voici un deck correct. Moi, pendant ce temps-là, je vais te rentrer dedans avec du dommage d'en face.
Ça a marché en Sapristi, t'as poigné à piqûre assez rapidement.
Ouais, bah ensuite, donc en rentrant à Paris où j'habite, j'ai commencé à aller en boutique. Il y a pas mal de boutiques à Paris, donc voilà, j'en ai trouvé une et puis j'allais régulièrement toutes les semaines faire des petits tournois et au bout de quelques années, j'ai commencé à faire des PTQ avec des potes.
Wow! Est-ce que dès le début, tu as eu des couleurs préférées, des patterns que tu aimais mieux ramener, des types de decks lesquels tu es plus à l'aise?
Ouais, moi j'aime bien prendre mon temps de manière générale, et à Magic aussi. Du coup, j'étais plus à l'aise avec les jeux contrôle ou des jeux midrange un peu lents qui grindaient beaucoup. Donc naturellement, les couleurs noires, bleu, vert, les couleurs de Sultai en fait, c'est celles qui me plaisent le plus.
Ok, ce genre de gars-là, c'est bon. T'as-tu une sorte de carte à l'inverse que tu veux absolument pas savoir? Moi j'aime pas les elfes.
Les elfes, non, pas vraiment. Bon, j'aime pas trop les jeux vraiment all-in, quoi. J'aime bien interagir avec l'adversaire. C'est vraiment le truc qui m'intéresse dans le jeu. Donc, tout ce qui est très aggro, qui te laisse pas le temps de jouer, ou des decks combos très linéaires, j'ai du mal.
Est-ce que tu as l'impression que c'est une espèce de cicatrice qui date de la première fois que tu as joué contre ton ami qui avait des Lightning Bolts qui pouvaient te aggroiser un petit peu rapidement? C'est-tu...
Non, j'aime bien les Lightning Bolts. Isochronceptor, c'est pas ma carte préférée, c'est sûr, mais...
ouais, non, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, Isochronceptor, c'est un équipement qui... Ben, en fait, c'est un artefact qui coûte 2 colorless, puis tu peux... Quand tu es mangeur, il faut que tu imprint, tu exiles un instant ou un sorcery qui coûte 2 ou moins. Puis ensuite, tu peux payer 2 colorless, taper ton isoconcepteur et reproduire ce qui est dedans. Donc, ça te permet de faire des counterspells à chaque tour.
Voilà, ça peut bloquer.
Genre d'affaire un peu salaud.
Entre autres.
est-ce que toi, tu es un joueur salaud? Te considères-tu comme ça? Si t'es contrôle, ça fait un petit peu chien. Là.
Ouais, j'avoue que... J'aime bien jouer, j'aime bien contrer des sorts, j'aime bien tuer des créatures. Je considère que ça fait partie de Magic aussi. Et puis, j'ai plus de mal avec les decks prison. Genre, moi, tant que je peux jouer mes cartes, je suis content, en fait. Si elles se font contrer ou tuer, c'est pas grave, mais au moins, j'ai eu la décision de les jouer ou de pas les jouer ou de les garder en main pour toutes les jouer dans le même tour. Enfin, je trouve que ça donne quand même des décisions par rapport à un deck qui va juste t'empêcher de jouer tes cartes.
OK. Puis ça veut dire que, mettons, les decks qui détruisent les landes, c'est pas quelque chose qui te branche bien, là.
Non, j'aime pas trop ça non plus. Mais heureusement, à Magic, en ce moment, il y en a plus trop.
C'est vrai, hein, que ça c'est quand même
c'est assez laissé de côté comme stratégie en
oui,
ce moment.
Effectivement. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu, parce que là, tu es rendu comme un régulier dans les tournois, dans les matchs importants. Est-ce que tu as une espèce de routine de préparation? Est-ce que tu as un montage d'entraînement officiel avec comme une toune qui vient en background? « You're the best around! Nothing can ever keep me down! » Ce genre d'affaires-là.
Pour ce qui est de la musique que j'écoute avant les tournois, c'est plutôt de la trance en général, mais je dirais pas que c'est ça fait partie de moi, ça fait partie de ma routine. J'écoute du Infected Mushroom pour ceux qui connaissent.
Un excellent choix.
C'est mon groupe préféré.
Fait que ta musique d'entraînement est space. On aime ça.
Non, mais c'est une bonne musique pour te mettre dans un bon état d'esprit, puis rester concentré.
Isoler la tête un petit peu. Puis de pratiquer, est-ce qu'il y a comme des manières de faire? Est-ce que tu as une équipe? Parle-nous de ça. Là. Comment tu te prépares à la venue d'un tournoi?
Alors, idéalement, je teste en équipe, donc avec d'autres Français. C'est... Un truc qui est important pour moi, c'est d'aller chercher aussi les gens qui viennent de se qualifier, qui sont pas encore des réguliers du Pro Tour. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on monte une team avec quelques bons joueurs réguliers et on va chercher les vainqueurs de PTQ et on les ils se greffent à nous et idéalement on évite pour drafter. Là, ces derniers temps, ça a été un peu plus dur parce que c'est devenu de plus en plus difficile de se qualifier au Pro Tour. Donc souvent, on n'est que 4 ou 5. Mais on se débrouille, il y a suffisamment de Parisiens qui aiment bien drafter pour qu'on monte des potes quand même et j'essaie de faire ça IRL le plus possible. Oui. J'ai du mal à me préparer en ligne, en fait je me sens moins investi. IRL on peut discuter en jouant, on peut discuter après. Je trouve que c'est vachement important de pouvoir débriefer aussi une fois qu'on a beaucoup joué autour d'un resto, un truc un peu festif mais où on peut continuer à échanger et à faire maturer les idées. Donc ça c'est un truc important pour moi aussi.
Ouais, ben c'est le fun. Moi aussi, l'aspect comme convivial du jeu de cartes, c'est quelque chose que je trouve primordial.
L'aspect gathering de la magie.
Le ramassis aussi, puis là, est-ce que c'était la première fois que tu venais en Amérique? Est-ce que t'es venu à Las Vegas? Comment je pourrais dire ça sans manquer de respect à Las Vegas? Une des places les plus inutiles au monde.
C'est certainement une ville.
De golf dans le désert. Weird honesty. Ouais.
Tu peux manquer de respect à Las Vegas, ça me dérange pas. C'est une ville aussi.
C'est la première fois que tu venais en Amérique. Comment t'as trouvé ça?
Non, c'était la deuxième fois que je venais à Las Vegas et ça fait beaucoup de fois que je viens en Amérique.
Pour des tournois.
Ouais, beaucoup de Pro Tours se passent aux États-Unis, donc on est un peu obligé. Disons que la dernière fois, j'étais tout seul. La dernière fois que je suis venu à Las Vegas, là, j'étais avec des amis, donc ça a rendu le truc beaucoup plus supportable. Parce que on peut en rire ensemble, quoi, de toute la...
L'absurdité de la...
L'absurdité, ouais, de la ville. Mais de manière générale, honnêtement, j'aime pas trop aller aux États-Unis. Je préférerais que plus de tournois soient en Europe, entre autres parce que ça m'éviterait d'avoir à prendre l'avion. Mais bon, on fait comme on peut.
Ah, voilà. T'es immunisé aux chatouilles, mais t'es pas à l'aise en avion. On vient peut-être de trouver une brèche.
Non, c'est pas que je suis pas à l'aise en avion, c'est plus pour des raisons écologiques que j'aimerais éviter. Mais,
Bah oui, ça n'est quand même très vrai. Ouais, bon, ben, crème, très sympathique.
Sinon, tu parlais de ta préparation pour les drafts et puis pour le construit. Comment tu sélectionnes ton deck? Est-ce que tu as déjà une stratégie en tête? Est-ce que tu fais juste regarder, OK, voici la méta, on va essayer de se positionner là-dedans? Ou?
Pour le construit, d'abord, j'essaie d'avoir une vue d'ensemble des decks du format. Donc, je joue un peu avec tous les decks en ladder sur Arena pour commencer. Et ensuite, dès que j'ai un bon feeling avec chaque deck, je commence à faire ce qu'on appelle les séries. Donc, plutôt que de jouer contre des adversaires inconnus, on va tester entre nous un match-up particulier avec des questions auxquelles on cherche à répondre. Donc, par exemple, la question habituelle, c'est est-ce que ce match-up est bon ou mauvais pour tel ou tel deck? Mais parfois, c'est plus précis que ça. On veut tester des cartes de side dont on pense qu'elles vont être efficaces ou carrément des plans de jeu différents, d'essayer toutes les créatures, des choses comme ça. Donc ça permet d'aller plus en finesse dans comment marche un match-up et de mieux comprendre quel deck est avantageux.
OK.
Colin, le travail de recherche, c'est cool ça. Faites-vous comme le sport professionnel, là, genre avec des enregistrements, puis on révise des affaires pour voir des jeux, puis ces choses-là?
Ça, on fait pas assez. C'est une bonne remarque. On pourrait plus revoir nos matchs, mais comme on joue surtout en papier, enfin les séries, donc comme je disais, je préfère tester en papier avec des potes et du coup on a moins cette option-là. Mais c'est vrai que pour ce qui est des matchs en ligne, on devrait plus les revoir.
OK, cool. Puis dernièrement, Magic est mort, hein? Je sais pas si tu étais au courant. parce que là, c'est quoi la dernière affaire à Aragorn et Noir?
Je sais plus c'est quoi, là. Il y a mort, toujours une nouvelle raison.
Ouais, en tout cas. Fait que toi, t'es comme passionné champion du monde d'un jeu qui meurt quand même assez fréquemment, régulièrement. Est-ce que dans les dernières séries, parce que si t'as commencé il y a 18 ans, ça nous amène à quoi? C'était à peu près le premier Terros? C'est là-dedans que t'as commencé?
Le premier set avec lequel t'as joué?
Non, c'était il y a plus longtemps que ça. C'était en 2005, donc c'était Kamigawa, je crois, quand j'ai commencé.
Ah, c'est ça, là. Ouais, OK. Le début des équipements, le style de je me jetais. Est-ce que depuis, il y a un set de Magic qui t'a plus comme impressionné, qui t'a plus déçu aussi, que mettons, ton meilleur puis ton pire set depuis que t'as commencé à jouer?
Ouais. Alors, mon bloc préféré, c'est le bloc Shadows Over Innistrad d'Eldritch Moon. Que je trouve juste exceptionnel sur tous les plans. Enfin, j'adore l'ambiance horreur Lovecraftienne. Ça, c'est vraiment un truc qui marche sur moi. Donc, j'ai tout de suite accroché à ça. Et Emrakul, c'est une de mes cartes préférées ever. Elle est tellement unique dans son gameplay. Et pour ce qui est du pire set, j'ai eu beaucoup de mal récemment avec le crossover Donjons et Dragons, alors que j'aime bien, c'est pas une question d'univers pour le coup, c'est juste que j'ai trouvé le set très désagréable à jouer mécaniquement. En général, quand je vais détester un set, c'est parce que le format limité me plaît pas, c'est souvent lié...
Forgotten Run, c'était beaucoup Rakdos, trésor, puis jouer toutes les bonnes cartes. Là.
Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment beaucoup de trésors. Là. On dirait que c'est une espèce de changement de paradigme du jeu lui-même, là, d'avoir comme amené beaucoup de trésors dans les quelques derniers sets. Là. À Capena aussi, là, il y avait vraiment beaucoup de trésors. Il y avait une manière de faire que... En tout cas, puis il y avait quoi aussi? Il y avait les dés, hein, Donjons et Dragons. Là,
ouais.
C'est ça, tu brassais des vins et tout, c'est pas quelque chose qui te branche?
Non, pas du tout. Je conçois que pour des rôlistes, c'est cool de lancer des dés, mais moi, c'est pas ce que j'aime à Magic. J'aime bien avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe. Ouais. Et savoir ce que mes
gars vont faire. Il joue pas Hearthstone, là, qui dit, là, c'est ça qu'il dit.
fait pas trop de RNG.
Ouais.
Non, enfin voilà, faut maîtriser un peu la variance, quoi. Il y en aura toujours, mais que ça reste assez raisonnable.
Je pense qu'on pourrait peut-être aller à la carte de la semaine, puis au retour, on parlera de plus précisément là, des événements qui se sont passés à Las Vegas dernièrement. Peut-être des anecdotes de match et ces affaires-là. Là, réveille la mémoire qui est dans le Jean-Emmanuel. Puis on s'en va vers la carte de la semaine. Là, c'est notre invité qui l'a choisi. C'est la carte du champion, toi, j'aime ça. C'est jamais arrivé. Hein? On va aller avant écouter un petit peu de Beat à Bone et remercier l'adversaire, notre magasin affilié qui est au 4303 Sainte-Catherine Est. Vous irez voir à un moment donné, là, il y a des chances que Manuel soit là. On écoute du Beat à Bone. Hey, la carte de la semaine de Jean-Emmanuel Duprat, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, j'aimerais bien parler de Cord of Calling, qui est une carte que j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs qui me plaisent dans cette carte. Déjà, c'est un tuteur.
Ouais. Je vais juste la décrire rapidement là, avant qu'on se mette à en parler. Là. Fait que Cord of Calling, c'est pour 3 manovers et X. En instant, tu cherches ton deck pour une carte creature card convertie de mana cost de X ou moins. Ensuite, tu brasses ton deck puis tu mets la créature sur le board. Et le plus important, je pense, avec cette carte-là, c'est qu'elle a convoke.
Ouais. C'est en instant aussi, c'est quand même assez gimmick. Ouais.
Alors vas-y, Jean-Emmanuel.
Ouais, donc déjà c'est un tuteur. Moi j'adore les toolbox à Magic parce que ça donne beaucoup d'options et ça te force à réfléchir au deck building de manière très précise à des one-off que tu peux mettre dans ton deck pour chaque situation. C'est un tuteur éphémère, ce qui est quand même assez particulier. En général, ces cartes-là, on peut pas s'en servir pour réagir à un play adverse. Donc ça la rend encore plus dure à jouer parce que on peut chercher un pet artefact ou un pet enchantement en réponse à un Splinter Twin, par exemple. Voilà, il y a des fenêtres d'interaction en plus qui s'ouvrent par rapport à un rituel. Et avec Convoke, encore une couche de complexité supplémentaire. Combien de créatures je vais garder dégagées? C'est quoi la valeur des points de dégâts que je peux mettre par rapport à monter haut en mana value? Et puis il y a aussi le jeu d'information, parce que l'adversaire, bah, il voit toutes les créatures dégagées, il peut flairer la Cord of Calling, donc parfois il y a des tours où pour pas trop la téléphoner, on va faire des attaques un peu bizarres avec une partie des bêtes. Voilà, c'est juste une carte qui est super intéressante à jouer, je trouve.
Ouais, ça amène beaucoup de patterns de jeux très différents. Et...
Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une fois que t'en as sorti un mémorable?
Mémorable... un truc que j'ai fait pas mal récemment avec Yawgmoth en moderne, c'est les cordes à X égale 0 sur Dryad Arbor. Tour 1, tu joues un Louveteau ou une créature qui ferait pas de mana normalement. Et tour 2, ta Cord of Calling devient un mana d'orc aussi, parce que tu peux chercher ce terrain qui est une créature. Et c'est un play pattern qui est beaucoup plus fréquent qu'on le pense en fait dans le deck parce que vraiment le deck est très manavore et bah cette créature on peut la sacrifier sur Yawgmoth ensuite, ça fait tour 3 Yawgmoth et tu peux la sacrifier, donc voilà, c'est un play que j'aime beaucoup.
J'aime ça.
Un petit ramp non conventionnel
effectivement. Ouais. En instant en plus, wow, quelle avance. Ben merci, je pense que ça va être ça pour la carte de la semaine. On est allé dans le vert avec notre invité Jean-Emmanuel Duprat. Là-dessus, ben on va se retaper une petite dose de Beat à Bone, puis on va aller virer à Las Vegas dans quelques instants. Merci d'être dans nos vies, yeah. Les camionneurs nous donnent de l'espoir. Moi, j'ai la toune de Thierry Doucet dans la tête. Jean-Emmanuel, t'es allé donc à Las Vegas. Parle-nous de ton état d'esprit avant le départ. Comment tu te sentais? Est-ce que t'étais comme... Parle-nous de ton état d'esprit.
Avant un tournoi, c'est toujours un peu spécial parce que moi, j'ai beaucoup de rêves de je vais tout gagner, je vais faire 7-0 jour 1. Voilà, on s'imagine des trucs fous et on sait que ça a très très peu de chances d'arriver. Donc après, bah, on essaye d'avoir le moins d'attentes possible sur le résultat et de juste profiter du tournoi. Là, j'avais eu un mois un peu chargé en plus parce que bah j'étais allé faire un bootcamp, donc pour préparer, j'étais allé à Nantes où habitent deux de mes teammates. Puis avant ça, j'avais un mariage, et avant ça, j'avais une fête de famille, et voilà, le mois était très, très, très chargé. Mmh. Donc voilà, j'avais juste envie de m'amuser le plus possible, et puis avec un peu de chance, gagner des parties en même temps.
OK. Fait qu'on était ouvert à l'expérience. C'était pas ta première fois à Las Vegas non plus. T'as-tu visité un petit peu là-bas?
Vite fait. Bon, on est allé. On a visité le dimanche soir. Du coup, on s'est fait plaisir. On est allé à un resto sympa au César Palace. Mais le reste du temps, non. On était un peu en périphérie, en fait, dans un B&B tranquille où on n'avait pas l'impression d'être à Las Vegas. Et c'était agréable.
C'est ça. On reste focus sur Magic en attendant les matchs. Comment ça s'est passé là-bas, les tournois, les rondes, les différents matchs?
Là, tu avais des drafts en début de journée les deux premiers jours.
Ouais, c'est ça. Sur mon premier draft, j'étais un pod fort, mais tous les pods sont forts, donc il était dans la moyenne, on va dire. Il y avait Otton Burchett, il y avait David Inglis, Tom Grams. Et il y avait un teammate à moi, Alexei, qui a fini 9e des Worlds.
Oui, juste ça.
Ouais, à vraiment pas grand chose. Ouais. On était au même pod, mais on s'est pas affronté. Il a fait 3-0, j'ai fait 2-1, donc ça, le tournoi a bien commencé. Ensuite, je suis monté à 4-1, et après, sur la fin de la journée, j'ai tapé deux match-up un peu compliqués, dont un contre Greg Orange, que je réaffronterai en top 8 par la suite. Et donc je suis tombé à 4-3 et je passe en... je savais que j'allais faire jour 2, mais c'était un peu déprimant. C'est très différent comme sentiment de faire 4-3 en commençant à 4-1 qu'en commençant à 2-3. Ouais. Dans un cas, t'es vraiment dégoûté d'avoir perdu deux rondes alors que t'étais en bonne position pour le top 8, et dans l'autre cas, t'es juste ravi de faire jour 2. Ouais. Donc c'est le même score, mais le feeling est pas le
même. Ouais, c'est vrai. Hein?
Oui, effectivement.
Comment t'approches ta deuxième journée?
Attends un petit peu. Moi, t'as nommé plein de noms de joueurs, des personnes que t'as quand même régulièrement affrontées aussi au fil des années. Est-ce qu'il y a une de ces personnes-là qui te donne plus de retard à fil ou...
c'est une némésis sur le circuit.
Ouais, c'est ça.
Ouais, j'ai un peu de mal contre Piotr en général, Piotr Glogowski, mais je sais pas à quoi c'est dû, mais juste il a un très bon score contre moi. Ravière aussi me bat souvent, dont en finale au Mythic Championship 5, mais récemment j'ai un peu pris ma revanche, donc je crois que c'est Piotr qui a la meilleure win streak contre moi.
Est-ce qu'à l'inverse, t'as des joueurs que t'aimes affronter, que ce soit parce que t'as une bonne fiche contre eux ou parce que c'est des joueurs que t'apprécies?
Bon, il y a plein de gens que j'aime bien affronter. Dans les grosses win streaks, le pauvre Sam Pardy que j'ai battu 3 fois de suite au dernier World et que j'ai rebattu cette fois-ci. Donc, à force, il doit en avoir un peu marre. Mais sinon, la personne que je préfère affronter à Magic... C'est pas un match facile, hein, donc je choisirais pas de tomber contre lui s'il y a de l'enjeu, mais j'aime bien jouer contre lui, c'est Shota. Shota, ouais. Il est vraiment très très fort et très impressionnant, et tu sais que tu vas jouer un match de haut niveau contre lui quoi qu'il arrive, donc ça c'est agréable.
Ben voilà, et ça nous amène la deuxième journée maintenant. Il y a plus de draft là.
Oui, il y avait encore un draft.
Ouais, il y avait encore un draft. Okay. En début de jour 2, celui-là j'ai fait 3-0. Donc au début de la journée, en fait, à 4-3, j'espérais pas vraiment faire top 8. Hein. Je savais qu'il fallait que je sois undefeated quasiment. Enfin, j'avais le droit à une défaite. Hein. Ouais. C'était très improbable, mais bon. Je sais que dans ces situations-là, je suis plutôt bon, en fait, parce que j'arrive à garder ma motivation à jouer et contre des gens qui, eux, peuvent se sentir un peu un peu déprimés par leur score. Donc bon, je savais que c'était possible, mais bon, je voulais pas trop compter dessus. Le draft s'est super bien passé. J'ai drafté un Golgari Food qui se plâchait des spoilers dans tous les sens. Vraiment un très bon deck. Il a fait 3-0 contre des très bons decks aussi. Et après ça, en standard, j'étais confiant parce que j'aime beaucoup mon deck. Donc, je voulais juste pas tomber sur des miroirs d'Esper. Et pas de bol, j'ai pris 3 miroirs d'Esper d'affilée. J'en ai gagné 2 des 3, mais c'était chaud. C'était beaucoup plus dur que dans d'autres match-up.
Oui, hein, Colin.
Puis tu t'es qualifié pour le top 8 un peu justement là, par la porte en arrière. Là, quand on est arrivé vers les dernières rondes, puis j'ai vu ton nom qui montait dans le classement. J'ai fait, ah ben, tabarouette, il pourrait finalement faire un top 8 parce que justement, après ta première journée, t'avais un peu oublié, tu sais. Fait que j'étais très content de te voir dans le top 8. Puis quand t'es arrivé, j'ai dit, ah bon, je compte pour lui après sa deuxième place au dernier deux ans plus tôt, il est dû. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Mais oui, j'ai mis à l'écran, puis on va le mettre sur la vidéo. Il y aura le deck que tu jouais, là, tu viens d'en parler, là, Esper Legends. Donc voilà.
Ouais, bah vraiment très bon deck. J'étais assez convaincu avant le tournoi qu'on aurait pas forcément le meilleur deck, mais au moins un des deux ou trois meilleurs decks. Vraiment, on l'a testé dans plein de matchups différents, et il était écrasant à chaque fois. Il était écrasant contre Golgari, contre Ramp, contre les decks Pia. Voilà, ce qu'on craignait, c'était des piles de removal. Donc, d'autres decks Esper qui seraient plus contrôle ou des decks plein de removal qu'on n'aurait pas imaginé. Mais il se trouve qu'il n'y en avait pas tant que ça, et même le match-up Esper midrange, il était assez équilibré au final, donc okay. Vraiment très très content du choix de deck.
Encore Talia, hein, tout le temps, là, gossante. Non, elle gossante, Colin. Vas-y, Emmanuel, vas-y.
Ben, je voulais qu'on parle du top 8, là, ouais. Comment ça s'est passé pour toi.
Alors le top 8, j'étais assez confiant pour le coup, genre une fois que j'avais fait top 8, j'étais assez confiant dans ma capacité à aller au bout, parce que des top 8 comme ça, genre des déjà joué quoi, donc il y a pas trop le stress d'être à la caméra par rapport à d'autres compétiteurs, et je sentais que j'avais des bons match-up dans l'ensemble, y compris contre Greg Orange, même si ça s'était mal passé en juin. Je pensais que j'avais un peu compris comment ça marchait et que Talia, ça lui ferait très très mal à son deck contrôle plein de spells. Il se trouve que ça a été un match difficile. J'ai commencé à 0-2 contre lui en quart. J'ai vu aucune Talia sur les débuts de partie et j'ai pas réussi à lui mettre assez de pression. Et derrière, il a fallu que je fasse le reverse sweep.
Ouais.
Donc ça, c'était vraiment le moment difficile du tournoi psychologiquement, à 0-2 en quart, où tu te dis...
Ton premier match dans le top 8,
ouais, oui.
0-2.
Ouais,
c'est ça, et forcément, ton esprit commence à vagabonder, tu commences à te dire, ouais, t'as fait un bon tournoi, tu te rassures en fait, tu te dis, c'est pas grave, tu te prépares psychologiquement à perdre, mais à un moment donné, il faut revenir dans le match, et tu peux pas rester dans cet état-là, quoi, sinon tu vas pas te donner les meilleures chances. Donc voilà, il y a vraiment un moment, pendant le sideboarding, entre la 2 et la 3, où... mentalement je sens que je suis en train de partir et je me force à rester concentré, je me dis bon tu restes là, tu fais tout ce que tu peux et après tu te consoleras, mais c'est pas le moment là.
Ben oui, ça aurait pris quelqu'un de l'équipe qui est là pour te crier ça dans les oreilles, quelque chose, le red focus.
Un coach.
Mais bravo, t'as renversé la vapeur quand même, t'as-tu fini par piger une Talia pour lui jammer ses affaires?
Ouais, j'ai eu un peu plus de Talia et surtout les games post-side étaient plus intéressantes, même passé le tour 3, le tour 4, j'avais des chances de gagner quoi, parce que j'avais des contres. Chez Old Red a été incroyable. Il y a une game que je gagne où il est à 20 quand je joue ma chez Old Red. Et le board est vide, hein. il a une Emperor déjà stickée, il a Up the Beanstalk, genre vraiment je suis très loin derrière. S'il a la moindre réponse à chez Old Red, je suis un peu foutu. Et je la slam et il a pas la réponse tout de suite. Et du coup, je l'étape, j'ai des contres et tout, et elle l'a amené de 20 à 0 sans attaquer. C'était n'importe quoi.
Wow.
Quelle carte.
Oui, vraiment. C'est, oui. Oui. Je vais peut-être rajouter des créatures dans mon deck de Nightmare, de Underworld Dream. Là. C'est, oui.
Fait que, ça a été plus relax, on pourrait dire, après ça, en demi-finale, puis en finale. Tu n'as pas eu besoin de... C'est sûr qu'il n'y a aucun des matchs qui était facile, là, mais tu t'es jamais trouvé en situation où tu devais absolument gagner les trois prochains.
Ouais.
Non, ça s'est très bien passé ensuite. Franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de chance sur la demi et la finale. Les match-up étaient, le match-up en demi était favorable, mais il n'était pas aussi favorable qu'il a eu l'air. Hein. Les games auraient dû être plus serrés quand même.
Ouais.
Et en finale, match-up équilibré, il mulligan à 5 deux fois. Voilà, c'est des moments où ça se passe bien pour toi, faut en profiter. Il y avait des moments dans les games où J'étais un peu comme devant un puzzle, en fait. Vous savez, les puzzles Lotus Noir, les trucs qui existaient à l'époque où on me demandait de trouver la solution.
Trouver l'étal.
C'est ça. Et dans ces puzzles-là, tu sais qu'il y a une solution. Quand tu te mets devant le puzzle et tu réfléchis, et tu sais qu'il y a un moyen de gagner. Et c'était un peu comme ça à chaque fois, en fait. J'avais toujours tous les outils pour gagner. Il fallait juste que je les assemble correctement. Et c'était agréable comme film.
Pression et avec plein de monde autour qui regarde et tout. C'est bravo, bravo. Le gars est débrouillard. Est-ce qu'il y a un moment pendant la dernière game que tu t'es dit, genre, est-ce que ça arrive de commencer à célébrer dans sa tête avant que la game soit finie, genre?
Ouais, et c'est dangereux. Mais ça, je le connais. Enfin, j'ai déjà perdu des games là-dessus au fil des années. Donc maintenant, je sais quand je commence à célébrer intérieurement, comme tu dis, je sais m'arrêter. Mais il y a eu un moment comme ça quand il commence à mulliganer à la game 3. Même avant ça, en fait, même à la game 2, il mulligan à 5, il loupe son deuxième land drop, et au moment où il passe le tour en loupant son land drop, je crois on me voit à la caméra qui pousse un espèce de long soupir, et là c'est le moment où j'essaie de me reconcentrer, en fait. Je suis tout excité à l'idée qu'il joue pas autour d'eux, et voilà, là, soupir, relaxation, on va quand même jouer la game au mieux.
Ah oui, bah
rien n'est
ouais.
fini, quoi.
C'est pas pire, ça. Fait que là, comment ça se passe, là, un coup que tu gagnes la dernière game, comment ça se passe?
C'est difficile à décrire. Enfin, t'es pris dans une espèce de spirale où tout le monde cherche à te féliciter, à prendre des photos. Y a tous les trucs officiels à faire, des photos avec le trophée, machin, donc... Donc voilà, tu te laisses porter par le flow, on va dire.
T'avais plus grand chose à décider pendant un petit instant, là.
Ouais, voilà, c'est.
Est-ce que
c'est
t'as
à la fois super agréable.
Est-ce que t'as téléphoné, genre, je sais pas, tes parents pour leur dire j'ai gagné, ce genre d'affaires-là? Comment t'as réagi avec ton team à toi, là?
Bah, il était tard en France, donc je leur ai envoyé des messages, mais elles les ont vus pas longtemps après. Mais ouais, évidemment. Enfin, j'ai trois petites sœurs. J'ai trois sœurs et ma mère qui suivent un peu tout ça de loin. Donc, voilà, je les ai salués. Et puis avec ma team, comme je disais, on est allé faire un bon resto. On est passé sur le coverage français parce qu'il y avait une team française qui castait le tournoi sur place. Ouais, Valet PL qui était payé par Ultimate Guard pour ça. Donc on est allé les voir. On a fait une petite fiesta.
La France a envoyé une délégation. Fait que si toi et le membre de ton équipe n'avaient pas réussi à vous rendre, il n'y aurait sûrement pas eu de gens de France pour filmer l'aventure. Là. Tu leur en as donné pour leur argent. Félicitations.
Ouais.
C'est cool.
Ah, c'est sûr.
Cool, ouais. C'est cool, pas seulement pour toi, mais je veux dire, c'est pour le Magic en France au complet. C'est quand même pas mal cool. Ça fait félicitations. Bravo à tout le monde d'impliquer. Y a-tu peut-être pour déborder de ce cadre-là, là, y a-tu comme une anecdote d'une game de Magic que tu as déjà faite, là, qui est un petit peu inusitée, là, quelqu'un qui a flippé la table, là, ou une affaire de même, peut-être pas dans un tournoi, là, n'importe quoi, ça peut être toi aussi, là, qui a décidé de cracher sur le Goblin Guide de l'autre, là, ou une affaire de même.
Non, je me souviens pas d'une game comme ça.
Tu joues avec du monde civilisé, toi.
J'ai joué plein de games un peu ouf dans ma vie, mais j'étais pas préparé à la question, donc j'ai rien qui me vient en tête là.
C'est quoi l'endroit le plus farfelu dans lequel tu as joué une partie de Magic?
Ah, bon, ça.
J'ai joué par terre dans un aéroport devant la porte d'embarquement. Je sais pas si c'est très farfelu. J'ai joué dans des kebabs beaucoup, y compris après la fermeture, des kebabs dont je connaissais les proprios. À une époque, quand il y avait des QT qui qualifiaient directement au Pro Tour, je me souviens qu'on a joué un top 8 de QT dans un kebab parce que la salle devait fermer tôt. Et donc il y a eu tout le top 8 en terrasse avec les arbitres qui mangeaient en même temps qui regardaient les parties. C'était particulier comme ambiance.
On n'arrêtera pas le Magic qui doit être joué, Colin.
Ouais.
C'est quoi la prochaine étape pour Jean-Emmanuel Depre, ouais. après le World Championship? Qu'est-ce qui reste?
Ça va être la coupe de l'univers, là. On va se ramasser avec les gens de Sirius B pour let's go, c'est pas shit.
Non, mais blague à part, j'ai jamais gagné de Pro Tour, donc j'aimerais bien rajouter ça au CV. Et bah, ce que j'aimerais le plus, c'est que le Hall of Fame revienne, enfin qu'on ait des nouvelles inclusions au Hall of Fame et que j'ai une chance de pouvoir être élu, parce que c'est vraiment la consécration, quoi. C'est le truc dont je rêvais quand j'étais plus jeune et que je regardais le Magic Pro. Donc ça, on verra si ça revient, mais sinon, ouais, gagner un PT et puis juste continuer, enfin rester relevant en fait. C'est vraiment ça le truc qui me motive. C'est j'ai envie d'avoir la carrière la plus longue possible et de réussir à rester au niveau malgré tous les jeunes qui viennent et qui en veulent et qui sont de plus en plus forts, les Nathan Steuer, les gens comme ça. Genre, je sais que cette année, j'étais un peu démotivé par Magic, j'avais commencé à réfléchir à d'autres trucs. Et là, il y a eu la grosse streak de Steuer et il y a Simon Nilsson qui a commencé à tout gagner aussi. Et dans des moments comme ça, à chaque fois, je me dis, ouais, ils sont très très forts, ils sont meilleurs que moi, là maintenant. Je peux les rattraper, genre je peux atteindre leur niveau à nouveau si je m'entraîne. Et bah bon, c'est un peu ce qui s'est passé là. Je sais pas si
t'as sorti ta musique trans, t'es allé voir ton équipe à Nantes, puis tu t'entraînais, puis on a scoré, Colin.
C'est ça, ouais, qui s'est
passé. T'as retrouvé la motivation dans la compétition. Dans le fond.
C'est ça. Enfin, voir des gens comme ça qui sont nouveaux sur le circuit gagner autant. Ça redonne le fire et tu te dis que t'as encore une marge de progression et des trucs à aller chercher en fait.
On décroche nos patins puis on retourne à l'offensive. Écoute, j'aime ça, on te sent beaucoup focus, on te sent aussi déterminé. Je te le souhaite pour le Wall of Fame, c'est quoi? Il est fermé? Ils prennent plus personne? Je suis pas au courant.
Non, bah, il y a plus de nouveaux entrants, en fait. Il y a une quarantaine de personnes dedans et depuis le début du Covid, je crois, ils ont arrêté les élections au Hall of Fame parce que, on sait pas exactement pourquoi, mais en fait, tous les Hall of Famers sont invités, étaient invités à tous les Pro Tours à l'époque. Maintenant, c'est un Pro Tour par an, ils peuvent choisir. Okay. Donc j'imagine que pour Wizards, c'est coûteux de devoir prévoir que de plus en plus de monde soit invité d'office à tous les PT. Ouais. Mais en vrai, je trouve ça un peu dommage. Et à la limite, ils pourraient ne plus donner d'invitation gratuite, mais juste le statut est prestigieux, quoi. Et c'est dommage pouvoir.
Le Magic compétitif est en constante évolution. Là, ça change. Il y avait les Pro Tours, il y avait plus Pro Tours, il y avait les Mythic Championship, il y avait la Pro League d'ailleurs dont tu as fait partie. Est-ce que ça t'inquiète que parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie, est-ce que ça t'inquiète que ça puisse changer d'un jour à l'autre? Puis
ouais, bah le moment où je me suis vraiment posé des questions, c'est à la fin de la Magic Pro League, parce que non seulement on a perdu notre salaire, mais il y avait plus de statut pro qui rémunérait automatiquement quand tu venais au tournoi. Maintenant on est sur un système où alors ils ont élargi le prize pool, donc t'as un prize minimal, hein, mais c'est pas l'équivalent de ce qu'on avait avant quand on était gold ou platinum, et t'es quand même plus payé à la performance, donc c'est plus stressant et voilà, t'as pas ce confort. Enfin maintenant je dis ça, j'ai gagné les Worlds, donc maintenant j'ai un confort financier, mais de manière générale t'as moins de confort, donc t'es plus incité à chercher des trucs en dehors de Magic pour gagner ta vie. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça et faut qu'on s'y adapte.
Oui, effectivement, ça fait partie de la réalité en sa précision. On va espérer que la chose continue à se développer, mais l'espoir est quand même loin, vu que Magic est mort récemment, parce qu'Aragorn, il est noir. Hein,
non, c'est plus ça, les
Ah non, il y a une autre affaire qui a tué Magic.
Il n'y a plus de witch type, là. Parce que,
ah oui, c'est vrai, voilà. Là, ils veulent enlever les witch, les chamans, puis les drogues.
Des débats pas importants. est-ce qu'il y a des moments, nous autres, c'est un running gag là, sur le podcast là, que Magic est mort. Est-ce que pour toi, il y a un moment où tu t'es dit, est-ce que ça, peut-être que Magic s'en remettra pas? Ou...
Donc, comme je disais, j'ai eu peur quand ils ont enlevé tous les statuts pro. Et que,
c'était ce moment-là.
À mon sens, en fait... Magic compétitif existe encore, ils font des efforts pour Magic compétitif. Magic professionnel existe plus vraiment, à moins d'être vraiment très très fort.
Ouais.
Et pendant longtemps sur ma bio Twitter, il y avait marqué former professional Magic player, donc ex-pro. j'ai changé mon statut Twitter pour ça parce que je voulais plus que les gens se fassent d'illusions sur le fait que c'était possible de vivre de Magic. Ouais. Et là, j'ai remis professional Magic player après les Worlds parce que j'ai la chance maintenant de pouvoir faire ça au moins pendant un an sans trop me poser de questions. Mais Mais c'est vrai que c'est le moment où j'ai un peu douté, et puis ça, si ça s'améliore pas, les doutes
Ah
vont
oui.
revenir.
Est-ce que, puis je veux dire, tu es tout à fait libre de ne pas me répondre à celle-là, mais est-ce que Wizards of the Coast contacte, est-ce que genre, ils te demandent ton avis pour créer des cartes, pour est-ce que tu peux t'impliquer un petit peu plus dans le processus? Je sais qu'avant, des fois, il n'y avait qu'ils pouvaient comme créer une carte, des champions, ils pouvaient
Ben le,
importer
ben
une
le,
carte.
tu vas avoir ta carte pour
Ouais.
le World, là. Tu commençais à y penser. Peux-tu nous en parler un peu ou?
Bah, j'ai commencé à y réfléchir et on a entamé le processus avec Wizards, mais j'ai signé un NDA à Las Vegas, donc
Fair enough, fair enough. Je suis juste très content que tu, au moins, tu vas laisser ta marque dans le jeu de cette manière-là. Il n'y a personne qui va pouvoir te l'enlever, c'est sûr et certain. Me semble que j'avais peut-être une dernière question. On a parlé. Est-ce que
Une
tu as un
dernière,
chien?
j'en ai plein de questions.
Est-ce que tu as un chien?
Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas d'animal
Ah,
domestique,
OK.
non.
C'est cool, c'est cool.
Désolé.
à part Magic, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'intéressent? Est-ce qu'il y a d'autres
Non, pas au même niveau. Enfin, j'ai joué un petit peu vite fait à plein de trucs, mais en fait, dès que je commence à jouer à un autre jeu, à m'investir dedans, la comparaison avec Magic est inévitable et j'arrive pas à justifier de passer mon temps là-dessus plutôt qu'à jouer à Magic, donc je reviens sur Magic. Mais ouais, j'ai joué un petit peu à Hearthstone, j'ai joué un petit peu à... j'ai bossé il y a pas longtemps sur un jeu de cartes qui va bientôt sortir, d'ailleurs c'est l'occasion peut-être d'en parler, qui
Ben
s'appelle
oui, ben
Altered, c'est un jeu français
oui. OK.
développé par des potes à moi à Paris et qui va bientôt être sur le marché. Et j'ai fait partie de l'équipe de test pour ce jeu-là. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien. Enfin, je pense qu'il sera bien. Soyez prêts. C'est peut-être
Donc,
le prochain hit.
on va garder un œil là-dessus en espérant que ça soit publié de notre côté de l'Atlantique.
Ouais, espérons.
Sinon, comment tu fais pour te reposer? T'as-tu des activités pour te divertir en dehors du Magic, là, parce que...
Je regarde pas mal de séries. Je me suis remis à lire un peu cette année. C'est un truc que j'avais. Ah, ça me pesait de plus lire autant que quand j'étais petit. Et là, je m'y suis remis. Je lis beaucoup de Terry Pratchett en ce moment. C'est mon auteur
Oh
fétiche.
yeah,
Donc,
ben oui.
je me fais toutes les annales depuis le tome 1. Là, j'en suis au tome 12. Ça va prendre du temps, mais c'est cool.
Il y a beaucoup de champions d'échecs aussi qui disent que la lecture, c'est leur manière de comme décrocher. C'est une manière de rester focus, de pratiquer ça malgré des affaires auto, ces affaires-là. Là, je pense que les deux manières d'être professionnel de quelque chose peuvent se ressembler. Et là,
Yeah. On a d'ailleurs un de nos auditeurs qui a pointé un fait intéressant. Peut-être qu'on pourrait te transférer la question. Il dit qu'il a lu dans une entrevue que tu aimes beaucoup la littérature, que tu écrivais quand tu étais plus jeune, des poèmes, des débuts de romans. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire, que tu aimerais poursuivre ou...
Ouais, alors je continue. J'aime pas trop en parler parce qu'après les gens m'en reparlent et ça me met la pression. Mais oui, je suis en train d'écrire un roman depuis. Ça fait 2 ans maintenant que j'écris. J'espère finir cette année. Peut-être ça prendra un peu plus de temps. C'est un roman de fantasy. Voilà. Je sais pas s'il sera publié un jour. Il y a peu de chance parce que les premiers romans c'est rare. Mais j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie dedans. Donc je serais content de le terminer au moins pour moi.
Si je peux t'inspirer,
On
j'ai
a...
commencé mon premier roman en 1999, puis je l'ai publié dernièrement. Fait
L'année
que
passée,
c'est pas une course. Je te
félicitations.
prends ton temps, puis tu vas l'aider, ça va
Pas de
arriver si tu
pression,
veux, si tu veux que ça arrive. Félicitations aussi. C'est quand même assez. C'est une des choses les plus difficiles là, que j'ai fait, moi, d'écrire un
Ouais.
roman. Il faut vraiment. D'habitude, je joue à un jeu vidéo en écoutant un film, en écoutant de la musique, mais là, ça, faut. Tu sais, c'est focus. Là, on décroche du reste. C'est même pas comme quand on joue à Magic en écoutant des films de ninja. Il n'y a pas de film de ninja. Il y a juste ça. C'est quand même assez particulier. Revenir, réécrire ces affaires-là. Faire sûr que le détail que tu as écrit à page 57, on en
Ouais.
parle à la page 12 avant. C'est une sacrée job. C'est une sacrée job. Là, puis je pense en fait que ça doit aider aussi à pratiquer les affaires qui rendent bon à Magic. Je pense que tu devrais continuer ça tranquille. Oh, c'est une bonne attitude. C'est une bonne attitude.
C'est
Bon,
possible.
Emmanuel, tu as dit que tu en avais plein d'autres.
Écoute, on a fait le tour de pas mal les questions qu'on avait justement là, de nos auditeurs.
Non, écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre, à vous écouter finalement. J'ai eu quelques questions en cours de route qui ont toutes été répondues. J'en aurais peut-être
bon.
Une. Est-ce que tu connais quelqu'un qui mange des elfes autre que Tommy Godette?
Qui mange des elfes?
Oui.
Non, je. Non, non.
OK, c'est bon. Parce qu'on parlait de choses farfelues tantôt, là, ça c'est quand même dans mon top personnel de choses de Magic, de voir Tommy manger des elfes légendaires.
Quand je pointe des elfes, j'y mange.
Oui.
Ouais, je les aime pas.
Cachez vos elfes. Simon, ben, on peut terminer peut-être en dirigeant, si les gens veulent te suivre, il y a ton Twitter, il y a ta chaîne Twitch, tu streams.
Ouais, je stream tous les lundis soirs à partir de 20h, heure française, sur ma chaîne Twitch qui s'appelle J-Rock, J-I-R-O-C-K. Je stream surtout du draft. Voilà.
J-I-R-O-C-K.
Ouais, surtout, fait que c'est surtout du draft. Est-ce que tu t'en sers comme tremplin pour te préparer à des tournois? Est-ce que c'est pour te
pas trop, enfin c'est plus pour le fun, ça me maintient sharp, on va dire, dans les formats, mais c'est pas ma préparation en soi. Et après bon, parfois je stream en plus des open, des choses comme ça, quand ça vient. Et généralement en fin de stream, je verrai Devoxy, qui est ma streameuse préférée, dont tu es modérateur.
Je suis modérateur. C'est comme ça qu'on se connaît un peu par la bande. Par Twitch, oui.
Oh Lynn, moi aussi je suis Twitch.
D'ailleurs, je dois souligner un fait d'arme que j'ai déjà battu le champion du monde en draft sur Arena. C'est arrivé une fois. J'avais une petite sueur quand j'ai vu ton nom apparaître sur l'écran. Puis ça a donné qu'on était dans le chat en même temps, fait qu'on a pu s'en parler par la suite.
Wow, c'est weird ça pareil. Ben écoutez, je pense que ça nous amène à la fin de l'entretien. On va souhaiter Godspeed à Jean-Emmanuel Deprade. Peut-être aussi, hein, checker ça, là, c'est Altered qui s'en vient, si j'ai bien compris. Un jeu de cartes. Vous mettrez ça dans votre mémoire sur le petit brûleur en arrière. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel. On te souhaite bonne chance ou merde. Hein, je veux pas te porter malheur. Il y a peut-être une manière en joueur de Magic de le dire aussi. Là, on te souhaite Vegas. Peut-être ça pourrait être la manière de le dire, je ne sais pas. Parce que des fois, ils disent bonne chance, faut pas souhaiter ça, là, break a leg.
On te souhaite plus de Pro Tour en Europe.
Ben, you bet. Puis écoute.
Que la mana soit avec toi.
C'est que le mana soit avec toi. Et je pense que si tu continues sur cette lancée-là, il y a un Hall of Fame qui n'aura pas le choix d'être redilaté pour introduire un nouveau nom. On te le souhaite, mon cher. Stay on a roll. Sinon, ben, vous pouvez le suivre, comme on a dit, sur Twitch et sur Twitter, les endroits où rencontrer le Jean-Emmanuel. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir participé.
Yeah, ça m'a fait plaisir.
Est-ce que tu es une fille et tu joues encore à Magic?
Je suis encore une fille et je joue encore à Magic.
Merci, Emmanuel, de nous avoir dégoté notre sympathique et inchatouillable invité de ce soir.
Le plaisir.
Et merci, Jean-Emmanuel, de ta collaboration.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Ben, on verra si on remet ça dans le futur, si tu as envie de venir déglutir tes affaires ou même faire la promo de ton nouveau jeu à des clients québécois. On a des fans un petit peu partout dans la francophonie. Là. Moi, on se mentira pas que la majorité du monde sont capables de dire tabarnak, comme moi je le dis. Là-dessus, on va remercier Martin Godette au montage. Un gros merci à Bone aussi, à l'adversaire. Le show est disponible sur Spotify, mais s'il vous plaît, allez sur Balado Québec à place, vu que Spotify, c'est la pire affaire au monde. Et je pense que je serai rendu au moment, en tant que Tommy Godette, de vous souhaiter à tous et à toutes, au nom de la bienséance, d'être le moins à l'autre, il a fait 2 mulligans à 5 en finale d'un tournoi international, d'être le moins manascrew possible.
De la famille H2O Web Media.